bonjour, vous êtes sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Alors aujourd'hui, un programme varié, attractif, vous allez voir, restez avec nous. Tout d'abord, je vais interviewer une des responsables d'un petit musée que j'ai découvert. C'est la maison Poincaré, pour faire aimer les maths à ceux qui pensent qu'ils sont des cancres. La maison Poincaré, donc on ira du côté du 5e arrondissement avec une des responsables de l'exposition « Comme par hasard ». Ensuite, on ira du côté de la Butte Montmartre pour parler d'une exposition sur Jacques Prévert, exposition passionnante. Et enfin, nous irons au théâtre de l'Atelier dans le 18e, pour parler de L'Amante anglaise avec de Marguerite Duras, pièce avec Sandrine Bonner. Tout d'abord, on écoute Dave, est-ce par hasard ? Et puis justement, ensuite, on parlera de l'exposition Comme par hasard.
Est-ce par hasard si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici où tu te trouves aussi? Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? Qui a guidé nos pas dans l'ombre? Mais qui a tout fait pour que l'on se rencontre? Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard?
Est-ce par hasard si elle a le cœur qui s'égare?
Si ce n'est pas le hasard, c'est la chance, laissons-la nous sourire. Cet air ancien qui revient de si loin, du fond de ma mémoire. Qui nous a menés l'un vers l'autre? Surpris, on se découvre fait l'un pour l'autre. Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard?
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Bonjour madame Calabrese.
Bonjour.
Voilà, nous allons parler donc de cette exposition Comme par hasard. le hasard qui se tient donc à la maison Poincaré, je le disais tout à l'heure, dans le 5e arrondissement, 11 rue Pierre et Marie Curie, à côté du métro Place Monge. Vous occupez justement, vous êtes médiatrice, organisatrice de cette exposition. C'est un nouvel espace d'ailleurs d'exposition, très étonnant. Alors il est rattaché à la Sorbonne, l'université de la Sorbonne et au CNRS.
Oui.
C'est un musée dédié aux maths. Et oui, voilà, chers auditeurs, restez avec nous. Et je voulais donc aller voir ce qu'il s'y passait. Ça m'a beaucoup amusée, c'est ludique, interactif. Il s'adresse, cette exposition, comme par hasard, s'adresse à tous, même à ceux qui n'aiment pas les maths et ceux qui veulent se réconcilier avec le calcul. Cette maison Poincaré est face au bâtiment historique du de l'Institut Henri Poincaré. Alors, dans ce petit musée, on peut y voir de vieux objets, le bureau du célèbre physicien Jean Perrin, un amphithéâtre, des photos, des documents, des jeux. Et puis au sous-sol, on gravit un escalier. Il y a cette expo, donc, intitulée « Comme par hasard », qui est en place jusqu'au 22 mars 2025. On y trouve des jeux, il y en a 16, hein, j'en ai expérimenté certains. On y trouve des courtes vidéos et puis également des œuvres d'art. Alors, c'est un parcours ludique qui permet de découvrir les secrets du hasard. Alors, Madame Calabrese, pouvez-vous nous rappeler quand a ouvert ce nouveau musée, finalement, la Maison Poincaré?
Oui, donc la Maison Poincaré a ouvert ses portes le 30 septembre 2023, donc on a un peu plus d'un an. Mais c'était un projet qui avait été initié déjà depuis 2017, donc on a été ravis de ouvrir en septembre 2023 et donc on est ouvert à ce public tous les jours sauf le mercredi et le dimanche.
Très bien. Cette exposition comme par hasard s'adresse à tous les publics, même aux enfants, hein, puisqu'il y a beaucoup de jeux, hein.
Oui, donc l'exposition « Comme par hasard » s'adresse à tout public à partir de 7 ans. Pour le reste du musée, c'est aussi à partir du 7 ans, même si nous recommandons plutôt à partir de 13 ans. Mais le but du musée, c'est vraiment d'accueillir tout le monde, pas juste les personnes passionnées de mathématiques. Le but, c'est que tout le monde puisse y trouver son compte et découvrir les mathématiques d'une façon ludique et amusante. Donc vraiment... vous êtes les bienvenus, même si vous aimez pas, surtout si vous aimez pas les maths, vous savez, si vous êtes pas à l'aise avec les maths.
Oui. Alors le musée, je rappelle, est ouvert le lundi. Vous me dites, hein, si je me trompe, hein, lundi, mardi, jeudi, vendredi, 9h30, 17h30.
Oui.
Samedi, 10h, 18h. En revanche, il est fermé le mercredi et le dimanche, hein.
Oui, c'est bien ça.
C'est bien ça. Alors, j'y étais moi-même il y a quelques jours, j'ai expérimenté des jeux mis à disposition des visiteurs et j'ai été bluffée. Je pense notamment, vous savez, à cet immense jeu au sol avec des dés. Et oui. on vraiment là, on voit qu'il n'y a pas forcément de hasard parce qu'on doit lancer un dé, par exemple, sur le 2, puis multiplier. Finalement, on voit que les chiffres sortent régulièrement, alors que nous, on pense que c'est le hasard.
Oui, en fait, c'est un jeu qui combine un peu l'adresse et le hasard. Donc, ce jeu s'appelle La Détente, c'est un des jeux interactifs de l'exposition Comme par hasard. Et le but, c'est effectivement de voir que il y a toujours, dans le lancer d'un dé, il y a toujours quelque chose qu'on peut contrôler. Donc, on peut avoir de l'adresse pour envoyer le dé où on veut. Mais en revanche, on n'a pas forcément le contrôle exact sur quelle face tombent les dés. Ouais.
Oui, et il y a également celui avec les petits dés, vous savez, qu'on met tous côte à côte.
Oui.
Alors, par exemple, on fait une rangée avec que les 1 et une rangée que avec les 6. Eh bien, on voit que la rangée n'a pas la même taille.
Oui, ça, c'est assez bluffant. Et le but, c'est de montrer qu'en fait... le dé idéal, il a toutes les faces qui sont identiques et tous les côtés qui sont identiques. C'est ça qui assure que le dé aura autant de probabilités de tomber sur chacune de ses faces. Par contre, même les dés qu'on trouve dans le commerce, en fait, ils ont jamais les côtés qui ont parfaitement la même longueur. Et donc, c'est ça qu'on peut s'en rendre compte si on en aligne plusieurs sur des faces différentes. On finit par se rendre compte qu'il y a toujours des petites imperfections.
Il y a également le dé avec les livres. Par exemple, prenons une page d'un livre au hasard, regardons le nombre de chiffres qu'il y a dedans. Eh bien, on va se rendre compte qu'il y a forcément plus de 1, 2 et 3.
Oui, Ça, c'est assez étonnant. C'est une expérience qu'on peut faire, par exemple, même si on regarde, par exemple, les prix des tickets de caisse au supermarché, on se rend compte que la plupart des prix ou la plupart des nombres qu'on peut trouver dans un livre quelconque, hormis les nombres de pages, commencent plus souvent par 1 ou 2 ou 3 que par un chiffre haut comme 4, 5, 6, 7, 8, 9.
C'est très étonnant.
Ça s'appelle la loi de Benford.
Oui, on se rend compte que le hasard n'est pas que négatif. Bon, évidemment, vous avez des hasards très malheureux, hein, comme un accident de voiture, mais il peut être aussi positif, une rencontre.
Oui, ça peut être une rencontre, ça peut être gagner au loto, même si c'est assez rare. En tout cas, ce qui a mis mal à l'aise l'humanité souvent, et notamment les scientifiques, c'est le fait que ça soit positif ou négatif, c'est vraiment l'inconfort de ne pas pouvoir contrôler ce qui va nous arriver. Et pourtant, en fait, parfois, il faut accepter que on peut pas tout contrôler. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut quand même apprendre des choses. C'est le but de notre exposition, en tout cas, de montrer cela.
Oui, c'est ça. On ne peut pas prévoir le hasard, mais on peut faire des probabilités. Et c'est ce que vous nous montrez aussi, hein. Il y a ce rapport entre l'échelle du groupe et la foule humaine, hein. Les lois du grand nombre, hein.
Oui.
Donc pour vous, finalement, le hasard est prévisible?
Tout n'est pas prévisible, mais il y a des choses qu'on peut prédire. Donc le hasard, en fait, une fois qu'on l'accepte, on peut le comprendre. Donc oui, on peut le rendre en quelque sorte prévisible, oui.
Et peut-on, on va dire, est-ce que le hasard nous échappe?
Il y a aussi des choses qui nous échappent. Donc comme dans l'exemple du dé, en fait, on n'arrivera jamais à faire tomber un dé à chaque fois sur le côté qu'on veut. Mais par contre, ou alors le mouvement d'une bille à l'intérieur d'un billard, enfin à l'intérieur d'une planche de Galton comme celle qu'on montre dans l'expo, en fait, nous échappe aussi. Enfin, on peut pas la contrôler. Mais par contre, on peut contrôler des choses sur l'échelle plutôt collective. Donc on sait ce qui se passe sur beaucoup de billes, on sait ce qui se passe sur une foule humaine plus que sur une seule personne dans certaines conditions, par exemple.
Oui, il y a les jeux de casino aussi. Alors là, évidemment, gros débat. Puisque
oui,
c'est quand même le hasard qui l'emporte.
Oui, donc ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'effectivement, on peut déjà s'amuser avec le hasard. On présente plusieurs petits jeux, en fait, où il y a du hasard. Ce qui nous permet de nous amuser, en fait, de ne pas savoir à l'avance ce que sera à l'issue du jeu. Mais par contre, il ne faut pas non plus tomber dans le côté, dans l'excès de penser qu'en fait, on peut contrôler ces jeux et qu'il y aurait un martingale, c'est-à-dire une stratégie pour gagner à beaucoup de jeux. Donc on montre une roulette, par exemple, le jeu de la roulette, il faut savoir qu'en fait c'est un jeu qui est fait pour que sur le long terme, ça soit le joueur qui perde. En fait, si on pariait sur tous les nombres de la roulette à la fois, on perdrait quand même de l'argent.
Oui, bah écoutez, ça tombe bien puisque nous sommes justement à Enghien et qu'à Enghien, il y a le célèbre casino de la région parisienne.
Ah bah, c'est parfait.
Voilà, alors je pense toujours à cette exposition, donc comme par hasard, hein, la maison Poincaré dans le 5e à Paris. Il y a également des artistes, hein, pour qui le hasard les a vraiment influencés. Je pense à Raymond Queneau. D'ailleurs, vous montrez cet ouvrage très étonnant où il y a des petits bouts de papier avec des tas de possibilités de phrases qui donnent des poèmes.
Oui, c'est vrai que le hasard a aussi souvent, de tout temps en tout cas, intéressé aussi les artistes qui s'en sont servis pour aider la créativité. Et notamment, on présente l'ouvrage « 5000 milliards de poèmes » de Raymond Queneau, qui est un livre, effectivement, avec des languettes où on peut composer son propre poème. Donc, il y a des vers, des mesures qui sont déjà écrites. Et en fait, il suffit juste de combiner les différentes languettes pour avoir à chaque fois un sonnet différent. Et donc, effectivement, comme il y a 14 lignes et qu'il y a 10 choix par ligne, on peut arriver à créer jusqu'à 5000 milliards de poèmes exactement.
Oui. Alors, on peut l'appeler hasard. Moi, j'ai plutôt envie d'appeler construction artistique. Mais bon, après, c'est très intéressant de voir tous ces phénomènes. Alors, l'exposition, on va peut-être citer, hein, Madame Calabrese, le commissaire de l'exposition,
oui,
le créateur.
Tout tout à fait. Il s'agit de Jean-Baptiste Aubin, qui est professeur à Lyon, à l'INSA de Lyon, et à l'Université Lyon 1. Donc c'est une exposition qui a été conçue effectivement à Lyon, donc par Jean-Baptiste Aubin et par les personnes de la Maison des mathématiques et de l'informatique de Lyon, qui est aussi un espace d'exposition et de médiation qui se trouve à Lyon.
Oui, l'exposition a déjà été montée à Lyon il y a quelques mois, voire
semestre. Oui, en 2018, ouais, et ensuite elle a itinéré un peu dans le sud de la France, notamment à l'école de mine de Alès, donc elle a déjà un peu circulé, ouais.
Très bien. Quand je suis venue, il y avait des enseignants, des ingénieurs, des physiciens très, voilà, on va dire très haut gradés. Mais il y avait également des familles, des enfants, du tout public.
Oui, tout à fait. Elle a beaucoup de succès, vraiment, et elle fonctionne bien avec tous les publics parce qu'effectivement, le hasard, c'est quelque chose qui étonne à tous les âges.
Très bien. Alors, donc je rappelle, hein, c'est comme par hasard à la maison Poincaré jusqu'au 22 mars. Il y a des visites guidées de la maison Poincaré, hein, donc samedi 16 à 10h30, samedi 16 novembre. 14h30, il y a un atelier, hein, pour les 12-16 ans.
Oui.
Et à 16h30, il y a une expérience holo. Mat, donc ça c'est pour la maison Poincaré dans son ensemble. Pour ce qui est de l'exposition, comme par hasard, Madame Calabrese, il y a une visite guidée, je crois, assez bientôt.
Oui, samedi. La prochaine, elle est effectivement le 23 novembre. Je crois qu'elle est déjà complète.
Ah,
mais n'hésitez pas à consulter le programme en ligne si vous êtes intéressé. Il y a plusieurs visites guidées qui sont prévues. Jusqu'au 22 mars de l'expo, et il y a des ateliers qui effectivement sont en lien avec l'expo et des ateliers pour les enfants de 7 à 11 ans et pour les adolescents entre 12 et 16 ans.
Très bien, je crois qu'on doit par contre réserver ses places par internet, hein. Pour l'instant,
oui.
Il n'y a pas encore de billetterie sur place.
Non, c'est ça, effectivement, pour l'instant, les réservations se font uniquement par la billetterie en ligne.
Sur maison-poincaré.fr.
Oui.
C'est ça, je crois que c'est 5 euros, hein, c'est ça, Madame Calabrese, 5 euros
pour les jeunes. Ateliers, oui, pour la visite guidée, c'est plutôt 7.
7 euros pour la visite guidée et 5 euros pour les jeunes de moins de 25 ans pour l'entrée. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview.
Merci à vous.
Et on vous retrouve donc à la maison Poincaré dans le 5e à Paris pour cette exposition passionnante.
Oui.
Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous allons du côté de la Butte Montmartre, au musée de Montmartre, pour une exposition passionnante sur Jacques Prévert. Nous venons d'entendre justement Les Feuilles Mortes, chanson de Jacques Prévert, chantée par Yves Montand. Et j'ai le plaisir de recevoir sa petite-fille, la petite-fille de Jacques Prévert, Eugénie Bachelot-Prévert, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc vous êtes la petite fille, je viens de le dire, du célèbre poète. Vous êtes peintre. Vous avez même écrit un livre il y a une quinzaine d'années sur Prévert, hein, Paris, Paris la Belle. Vous transmettez...
Oui, qui était le catalogue de l'exposition à la mairie de Paris.
Oui, vous transmettez l'œuvre de votre grand-père. Donc, je me suis rendue, alors voilà, au musée de Montmartre, qui est sur la Butte. J'ai été enchantée. Voilà, chers auditeurs, je vous conseille tous d'y foncer. C'est un musée qui est juste à côté, hein, du bateau Lavoir, un écrin de verdure. Voilà, niché sur la Butte avec des jardins surplombant Paris, un café. Le café Renoir, cette maison, hein, je rappelle, hein, madame, je rappelle juste que cette maison fut le lieu de rencontre de nombreux artistes comme Renoir, Raoul Dufy, Maurice Utrillo, Suzanne Valandon. Et aujourd'hui, il regroupe des photos, des documents, des tableaux sur l'histoire de la Butte Montmartre, sur ses artistes, ses cabarets. Et donc, il y a une exposition sur Jacques Prévert. Voilà, donc Eugénie Bachelot. Jacques Prévert habitait, je crois, enfin j'en suis sûre même, en bas de la Butte, hein, cité Véron, en 1955.
Oui, derrière le Moulin Rouge, place Blanche.
Oui.
Il a habité très longtemps, de 55 à la fin de sa vie, en 77.
Oui.
Et donc c'était très important de faire en voisin, de faire cette exposition. Et comme vous l'avez bien dit, le musée Montmartre, qui était une maison de peintres, et de montrer Jacques Prévert et ses amis peintres, et Jacques Prévert, artiste plasticien, parce que c'est une facette de son œuvre qu'on connaît moins, et pourtant qui a été une très grande pratique. Il a plus de 30 ans de pratique de collage. Il a fait autour d'un millier de collages, et il s'est passionné pour cette technique. Et voilà, donc c'était de pouvoir le montrer, et montrer son œuvre plastique, et aussi des dessins qu'il faisait chaque jour. Il dessinait une fleur, c'était ses pages, c'est son agenda qui était sur des grandes feuilles volantes, qui est très graphique, c'est vraiment une chose magnifique. Et son bureau, qui est cité Véron, puisque je conserve toujours son appartement. Et aussi de déporter le bureau et de pouvoir vraiment le montrer comme une œuvre, avec son univers, tous ses objets hétéroclites, très drôles, comme tout ce que fait Jacques Prévert, et féroce aussi. Et voilà, avec ses outils de travail.
Oui, et sa bibliothèque.
Voilà, exactement, et sa bibliothèque.
Oui. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On connaît Jacques Prévert, le poète, pour ses centaines de poèmes, ses scénarios, hein, bien sûr, pour le cinéma, Quai des Brumes, Le Jour se lève, Les Enfants du Paradis, Le Crime de Monsieur Lange. Mais comme vous le disiez, en effet, on connaît assez peu son talent pictural. Alors, c'est l'époque du surréalisme. Et il a été très proche, finalement, enfin, assez proche, on a presque l'impression qu'il avait même des liens fraternels avec Picasso, Georges Braque, Alexandre Calder. Voilà, c'était important à cette époque-là, j'ai l'impression, ces liens fraternels.
Oui, comme vous avez souligné pour le surréalisme est très très important parce que Jacques Prévert, à ce moment-là, cohabite dans une maison qui est louée par son ami Marcel Duhamel. Ils habitent à Troyes avec le peintre Yves Tanguy, qui au départ n'est pas encore peintre, mais qui dessine, et là qui se met à peindre. Donc c'est très très important. C'est vraiment dans la... Jacques Prévert a dit qu'il a fait ses classes dans la rue et chez les surréalistes. Donc il est pleinement surréaliste. Et il a eu ce premier rapport, on va dire, intime, quotidien avec Yves Tanguy. Oui. Et ensuite, autour de ce merveilleux village de Saint-Paul-de-Vence, autour de l'auberge de la Colombe d'Or, et puis ensuite autour de la famille Mag, de grands liens se sont établis entre les artistes qui, étaient en dehors de Paris et pouvaient vraiment tisser des liens très forts. Et donc ils s'échangeaient des œuvres, ils discutaient ensemble, ils ont collaboré avec de nombreux livres. Et là, ce qui est très beau dans cette exposition, c'est qu'on a pris le parti pris de ne pas parler malheureusement de tous les artistes pour lesquels Jacques Prévert a écrit, mais ceux avec qui il a fait vraiment des beaux livres. Donc on peut voir un livre magnifique qui s'appelle Adonide avec Miro, où l'écriture manuscrite se mélange aux lithographies de Miro, un livre où ils ont mis plus de 10 ans à faire, qui est vraiment pour moi le chef-d'œuvre de l'exposition. Donc il y a un mobile de Calder que Calder lui avait dédicacé offert, qui était au-dessus de sa table de salle à manger. Donc de pouvoir montrer effectivement ce côté intime. Donc il y a des lettres, des photos, mais de travail, puisqu'ils travaillaient ensemble.
Oui, je pense.
Et de montrer aussi du coup son très grand appétit visuel, puisque vraiment il adorait, il se nourrissait des œuvres et qui était son support d'écriture. Et ensuite il fait des textes assez délirants, il invente des histoires autour de ses œuvres.
Oui, je pense également au livre sur Varangeville.
Oui.
Qui est très intéressant.
Oui, alors Varangeville, c'est un traitement un petit peu particulier parce qu'il a été fait après la mort de Braque, mais il a écrit en texte, du reste très beau texte, il aimait beaucoup Braque. Et après, il y a par exemple un livre qui s'appelle Les chiens en soif qu'il a fait avec Max Ernst, qui est complètement délirant, avec des dialogues d'oiseaux. Avec l'univers de Jacques Prévert, complètement fou, libertaire, anticlérical et très drôle. Donc c'est vraiment de montrer. Et aussi, donc ça c'est la première partie. Et ensuite, on passe, puisque le musée est en deux espaces, ensuite on passe vraiment à la production graphique de Jacques Prévert et qui peut, à mon sens, se comprendre... avec sa très grande connaissance de la peinture et ses amitiés quotidiennes avec des peintres. On voit qu'il a une très grande aisance parce qu'il connaît la peinture. Il connaît les peintres et la peinture et ensuite il se met à produire ses propres images.
Oui, c'est ces fameux collages, hein, il y en a une cinquantaine présentés au musée.
Oui, il y en a même un peu plus, je ne sais plus le chiffre, mais je pense qu'il y en a plus...
Je pense à celui intitulé « Le pape du Moulin Rouge ».
Oui, qui est très marrant, qui est une carte postale qu'il a envoyée à Jean-Paul Goude qui était à New York, où le pape, effectivement, est comme une meneuse de revue devant le Moulin Rouge, où il est parti d'une carte postale brodée, très kitsch carte postale, donc un collage très, très marrant. Ensuite, il y a le Christ qui est crucifié sur les ailes, le Christ de... du Brésil, la grande statue qui est crucifiée sur le Moulin Rouge, donc très très marrant. Enfin, il y a beaucoup d'humour et donc là, c'est vraiment tout le volet, parce qu'on a fait un petit focus sur Paris, où le Sacré-Cœur est transporté sur l'île de la Cité, voilà, où il y a un coq qui est dans Paris, enfin voilà, avec devant l'Arc de Triomphe, qui s'appelle la Cinquième ou la République des Poulets. Donc voilà, donc toujours très très drôle et voilà, et puis aussi montrer son amour de Paris, son imaginaire
oui.
qu'il crée autour de Paris.
Il y a le collage sur la Place Blanche aussi.
Oui, avec des vaches où la Place Blanche est transformée en prairie.
Oui, c'est formidable hein, de découvrir toute cette création. Je pense également à son lien assez proche, assez étroit finalement avec Picasso. Il a écrit la fameuse lettre hein, que l'on peut voir à tes 20 ans, alors que Picasso, oui. je crois, en a... en fait, c'est... Je sais plus.
Oui, c'était pour les 80 ans.
80
c'était
ans.
Pour un journal, ça a été reproduit en facsimilé. C'était plusieurs, plein de contributeurs ont fêté les 80 ans de Picasso dans un journal niçois. Et puis il y a un document qui est exceptionnel et qui est un rêve où il envoie une lettre à Picasso en lui disant qu'il a rêvé de lui, donc c'est vraiment moi je trouve très très émouvant. Il y a le très beau portrait au fusain que Picasso a fait, donc le très beau portrait de Jacques Prévert.
Oui.
Que Jacques Prévert, il aimait pas trop la manière dont Picasso l'avait représenté. Puis ah mais si tu lui ressembleras plus tard, mais qui est un vrai portrait qu'il a fait d'après étude. Donc et Picasso est vraiment très très important. Il a écrit un de ses premiers textes sur Picasso, donc c'est et donc c'est pour ça que Picasso a une salle entière consacrée
dans l'exposition
avec des portraits croisés aussi.
Oui. Revenons
des
un peu
que Jacques Prévert fait de Picasso.
À cette période surréaliste, Jacques Prévert a participé au fameux tableau, enfin je sais pas si on peut l'appeler comme ça, en tout cas le fameux dispositif du cadavre exquis. Il y a participé avec
Oui. Oui, la rue du Château, c'était un lieu très important dans le surréalisme. Donc c'était le pendant, on peut dire, de la rue Fontaine où habitait André Breton, qui était plus littéraire. Et là, c'était le surréalisme débridé. Et donc c'était une maison où les gens aimaient beaucoup y venir. C'était très très vivant, très sympathique. Et donc c'est là où ils ont inventé le cadavre exquis et sous forme de texte et puis sous forme de dessin. Donc on présente un cadavre exquis qui est très rare parce qu'il y en a très peu de cette période. Ils sont très fragiles, donc c'est très compliqué toujours de les obtenir. Mais voilà, et qui montre l'esprit on abolit la figure de l'artiste unique. Là, c'est un dessin collectif, anonyme, puisque il n'y a que Yves Tanguy qui a signé des années après, mais on ne sait pas qui sont les autres. Donc c'est l'esprit de jeu, de surprise, de dessin automatique, de rêve éveillé.
Oui. Je trouve que la lecture des documents, des cartels, allô?
Oui, je vous entends.
Excusez-moi, est très aisée, accessible et donne envie d'en savoir plus. J'avais une question sur les collections, donc elles viennent de vous, hein, sa petite fille, Eugénie Bachelot-Prévert, également du musée Picasso. D'où viennent tous les documents, les œuvres présentées?
Oui, alors la plus grande partie, bien sûr, ça vient de ma collection, mais également on a vraiment eu la grande chance d'avoir d'autres collections qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance. Il y a la BNF, puisqu'ils ont beaucoup beaucoup de collages. Ma grand-mère avait fait une dation, donc ils ont un grand nombre de collages qui sortent très peu car ils sont très fragiles. Donc là, il y a beaucoup de collages de la Benne qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Le musée Picasso, il y a aussi la succession Chagall, la famille Mag, puisque vraiment de grands liens d'amitié aussi s'est établi entre Jacques Prévert et la famille Mag. Donc qui sont venus enrichir voilà des aimants que nous avions, par exemple il y a deux huiles de braque, un très très beau chat serpent qui est en dessous de le mobile qui est posé au sol. On a aussi la galerie Serroussi 1900-2000, voilà des collectionneurs privés aussi. Donc c'est oui c'est très important. On a Et puis bien sûr, le musée Picasso, c'était très 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 bien qu'il nous ait suivi.
Oui, l'exposition, je rappelle, sur Jacques Prévert est au musée Montmartre jusqu'au 16 février. Eugénie Bachelot-Prévert, un livre, un film à nous recommander en parallèle de venir voir l'exposition. Bon, les livres, bien sûr.
Un film, y en a tellement, c'est pas facile. Il y a les films qu'il a fait avec son frère qui sont vraiment très marrants, où on sent justement cet esprit burlesque, quoi, très, qui sont un bon pendant par rapport aux films qui sont magnifiques, hein, de Carnet, mais voilà, et puis il y a un très beau DVD qui est publié par Dorian Film qui a rassemblé ses films, et puis un livre, par exemple Fatra, c'est un très beau recueil où il mélange des collages, des aphorismes, des textes, c'est un très beau recueil qu'il a fait.
Très bien.
Et je voudrais ajouter, dire que la Cité Véron, en fait, j'ai créé une association chez Jacques Prévert pour préserver ce lieu qui est une location. Donc, c'est pas très aisé de le conserver, de le faire classer. Et voilà, et donc je le fais visiter. C'est une association, donc on peut faire un don, venir aussi apporter sa pierre, participer à ce lieu, à la sauvegarde et à faire vivre ce lieu. Et voilà, et si
formidable.
Vous voulez vous joindre à ce projet et visiter le lieu, vous nous écrivez à chez Jacques Prévert @gmail.com. Et ce lieu est montré, voilà, je constitue des groupes avec des rendez-vous. Et voilà, et puis c'est un lieu magnifique, derrière le Moulin Rouge, avec pour voisin Boris Vian. C'est vraiment un lieu exceptionnel.
Formidable, qui se visite donc sur demande. Hein.
Exactement, chez Jacques Prévert. Vous écrivez, puis je vous réponds. Et...
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup Eugénie Bachelot-Prévert d'avoir répondu à cette interview. Nous sommes très honorés.
Merci pour votre enthousiasme pour cette exposition.
Voilà, et donc je rappelle, exposition Jacques Prévert au musée Montmartre, ouvert tous les jours, 10h-19h. Merci beaucoup.
Oui, Jacques Prévert, rêveur d'images.
Rêveur d'images. Et on écoute, donc on écoute de Serge Reggiani, Le petit garçon. Merci, au revoir.
Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls. Ce soir, elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment, une histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir, ne t'en va pas, ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdus parmi les choses, dans cette grande chambre, seul. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir, elle ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, je n'ai plus de mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il est un peu tard ce soir. L'histoire de gens qui s'aimèrent et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là. Non, ne pleure pas.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Kerlan, vous habitez Viorne depuis quand ?
Depuis que j'ai quitté Cahors, à part 2 ans à Paris.
Vous n'avez pas d'enfant ?
Non.
Vous avez reconnu être l'auteur du meurtre de Marie-Thérèse Bousquet, votre cousine ?
Oui.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime, et nous poursuivons notre émission. Nous allons au théâtre de l'Atelier. Nous allons parler de L'Amante anglaise. Jacques Osinski, vous êtes le metteur en scène. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, nous venons d'entendre le teaser hein, de L'Amante anglaise. C'est jusqu'à fin décembre à l'Atelier et le grand retour de Sandrine Bonner. Alors 10 ans après pour le théâtre, mais pas tout à fait, hein, puisqu'elle a elle a également participé à un spectacle musical hein, il y a 5 ans à peu près sur scène. Sandrine Bonner qui incarne eh bien le rôle de Claire Lannes. Voilà. Hein, on va en parler après. Hein, à côté des formidables Frédéric Lightjens, Grégoire Osterman, voilà. Alors Claire Lannes, je fais un petit résumé, hein, Jacques Osinski, oui. C'est une femme perdue, forte à la fois, qui a tué sa cousine, sourde et muette. Alors 3 voix pour ce spectacle, pour tenter de comprendre la voix de l'interrogateur, celle de la meurtrière Claire Lannes, qui est la coupable donc, et celle de son mari Pierre Lannes. Donc je rappelle, hein, la pièce a été écrite par Marguerite Duras en 1968, un an après d'ailleurs le roman, hein, roman oui. Écrit en 67 hein, et ensuite adapté pour le théâtre. Donc dans la pièce, 3 personnages, enfin pièce à 3 personnages. Cet interrogateur, il cherche à comprendre qui est cette femme. C'est ce qui est incroyable, c'est que même nous, finalement, on ne le saura pas. On boit ses paroles pour essayer de comprendre qui est Claire Lannes. Pourquoi a-t-elle tué sa cousine ? Alors, l'interrogateur va d'abord s'adresser à son mari, hein, face-face, oui. Ils sont face-face, oui. Puis à Claire, la coupable. Ce qui est marquant, c'est que c'est sans jamais juger. Il veut seulement comprendre. Alors, je me suis posé cette question, c'est finalement ces interrogatoires face-face, ne sont-ils pas on a l'impression que c'est pas, il n'y a pas de mal là-dedans, enfin, plutôt des interviews, non, des consultations psychologiques?
L'interrogateur, qui d'ailleurs n'est pas défini, puisqu'il s'appelle l'interrogateur, donc on ne sait pas qui c'est. Pour moi, il nous représente, nous, public, c'est d'ailleurs pourquoi il est dans la salle. face au mystère du pourquoi. C'est-à-dire que tout un chacun, face à un fait divers, se pose la question du pourquoi. Évidemment, bon, si on pense à l'affaire Grégory, si on pense à de nombreuses affaires, on se demande comment la personne est passée à l'acte. On a envie de comprendre. Et Duras était très friand de chroniques judiciaires, puisqu'elle a, elle a entendu parler de ce fait divers qui a existé de l'après-guerre, où Amélie Rabillou avait découpé en morceaux son mari, cette fois-ci. Et donc, pour moi, l'interrogateur, il nous représente. Et en même temps, c'est également l'écrivain. Ça peut être Marguerite Duras, ça peut être aussi un expert psychiatre, ça peut être un juge, même si il s'en défend. Voilà, c'est un peu tout ça mélangé.
Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi Marguerite Duras s'intéressait-elle à des faits divers, voilà, sur des meurtres? Est-ce que c'était pas finalement pour parler d'autre chose, du couple?
Tout à fait. C'est pour parler de la folie, c'est pour parler de de l'amour. C'est pour parler des méandres de l'âme humaine. Enfin voilà, c'est pousser à l'extrême des choses que finalement, tout un chacun traverse sans évidemment passage à l'acte.
Oui, parce que Sandrine Bonner, moi j'ai remarqué que dans la salle, le public boit ses paroles. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a envie d'avoir un indice. On a envie
On a envie de savoir pourquoi. Et d'ailleurs, très souvent, quand on parle avec des juges ou avec des policiers, enfin sur des affaires similaire, en fait, le pourquoi, c'est un peu ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire un début de pourquoi. Et très souvent, ils n'ont aucune réponse. C'est-à-dire le comment, oui, le pourquoi, non. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve facilement.
Oui, là, elle apparaît finalement comme une, j'ai envie de dire, criminelle innocente, enfin quelque chose qui la dépasse, avec une expression de bonne foi.
Oui. La part d'innocence, elle est importante parce que dans le travail, il y a quelque chose d'une forme de naïveté comme ça. Il n'y a pas du tout de culpabilité. Elle a essayé de faire quelque chose de sa vie, comme elle dit. Elle était totalement perdue, quoi.
Oui, perdue, oui. Qui se pose plein de questions. Débordée, elle est dans son jardin.
Hein. Oui, elle est dans son jardin.
Claire Lanne est dans son jardin. Et il y a un moment, une phrase où elle parle de l'intelligence, où elle dit j'étais enfin intelligente dans mon jardin.
Oui, c'est ça. Elle avait des pensées intelligentes sur ce banc. J'avais des pensées intelligentes sur ce banc.
Oui, parce que c'est une femme qui est dans un couple, mais qui est vraiment dans la routine. Et on sent que sa vie est terrifiante.
Terrifiante. Son mari, dans la première partie, se confesse un peu. D'ailleurs, dit des choses sur elle qui sont pas fausses. Mais il est terriblement égoïste. Et finalement, c'est une femme sous emprise, comme on dirait aujourd'hui.
Oui.
Sous l'emprise de son mari. Elle n'a aucune, elle n'a rien de droit de faire. Elle devrait être cantonnée à ce qu'une femme à l'époque devait faire, c'est-à-dire la cuisine, tenir sa maison, etc. Même ça, il lui enlève parce que il fait venir Marie-Thérèse.
La fameuse cousine qu'elle va assassiner. Hein.
Oui,
voilà. Fameuse cousine qui est sourde et muette.
Oui, et donc ça raconte aussi quelque chose de terrible sur le couple, puisque si son mari lui avait parlé, s'il a mis la poussière sous le tapis et il a fait comme si de rien n'était.
Bon. Il y a alors la menthe anglaise d'ailleurs, ça vient de la menthe, hein, M-E-N-T-T-H-E, plante, hein. C'est ça.
Oui, c'est la plante. Donc il y a un jeu de mots sur la menthe. C'est une faute d'orthographe qu'elle fait, comme le dit Pierre, son mari. Donc en fait, Elle fait pousser de la menthe anglaise, la plante, qui est d'ailleurs une plante purgative, et c'est comme si elle se purgeait de toute la viande en sauce qu'elle est obligée de manger tout le temps. Et puis, la faute d'orthographe sur amant, une amante, et en même temps, évidemment, chez Duras, ça raconte toute cette ambivalence de cette femme qui a aimé, qui a eu un grand amour et qui a aimé passionnément la Jeanne de Cahors, quand même, son premier amour.
Oui,
voilà.
Oui, clair. Elle en parle très bien d'ailleurs, cet agent hein, de Cahors, voilà. Et finalement, ils ont rompu et elle s'est résignée à épouser Pierre.
Hein, voilà.
Pierre Lannes. Alors parlons un peu, Jacques Osinski, de l'intervieweur, enfin l'interrogateur. Je trouve qu'il a un peu une dimension chorégraphique quand il monte tout d'un coup sur le plateau. On est vraiment saisi par ce qu'il déploie. Et puis il a une voix complètement marquante avec un phrasé heurté. Alors qui est-il cet interrogateur?
Cet interrogateur, c'est un peu, il nous représente. C'est-à-dire que c'est un peu comme nous-mêmes face au mystère de ce crime. Donc il est dans la salle, je tenais à ce qu'il soit vraiment dans la salle, comme ça l'était d'ailleurs à l'époque dans la mise en scène de Claude Régis. Et donc il est très souvent de dos, on voit sa silhouette, on voit son crâne, et puis petit à petit il se déploie et il monte, il se rapproche de la scène et monte sur scène au fur et à mesure qu'il avance dans son interrogatoire et que les questions deviennent de plus en plus perçantes, explicites. Alors il a effectivement, Frédéric Langens a une étrangeté comme ça dans son jeu. Donc il a une voix particulière, une façon de phraser particulière, et puis il a une démarche aussi, une présence assez inquiétante et étonnante à la fois.
Je rappelle son nom, c'est Frédéric Langens.
Oui, voilà, tout à fait.
Qui interprète le rôle de l'interrogateur. Vous avez déjà travaillé avec lui,
oui,
hein, notamment
l'année dernière avec Fin de partie.
Dans Fin de partie. Alors, quant au mari Pierre, donc interprété par Grégoire Ostermann, il est, on ne sait pas s'il est mal à l'aise ou si tout sonne juste. Il paraît sincère.
Oui, alors ça, c'est ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est que, comme le mari, c'est un personnage assez assez antipathique et assez égoïste. Et en même temps, on se dit qu'il l'a vraiment aimé, sincèrement, et que il l'a mal aimé, mais qu'il l'a aimé quand même. Et il est un peu perdu, il est un peu sous le choc par tout ce qui s'est passé. Donc il essaie pour la première fois de sa vie de comprendre aussi lui-même qu'est-ce qui s'est passé et qui était sa femme. Parce qu'en fait, il ne s'en est jamais soucié et il n'a jamais essayé de la comprendre. Donc c'est la première fois qu'il fait cette démarche qu'on pourrait rapprocher d'une démarche analytique, puisque lui n'est pas coupable, c'est sa femme qui est coupable. Mais pour Duras, il est en quelque sorte coupable symboliquement. Il est responsable de cette bascule de Claire Lannes vers le meurtre.
Oui.
Donc il essaie de comprendre. Et du coup, on a pensé que c'était... En fait, plus il est humain, plus il est sincère, plus il est ambivalent.
Oui, plus nous, public, on en apprend finalement sur ce thriller. Sur cette intrigue policière. Et je le disais en début d'interview, on boit les paroles, que ce soit du mari, que ce soit de la meurtrière Claire Lannes ou de l'interrogateur pour essayer de savoir, de comprendre.
Oui.
Pourquoi elle a fait ça. Jacques Osinski, donc je rappelle, vous mettez en scène la menthe anglaise au Théâtre de l'Atelier. La pièce a été montée pour la première fois en 68, avec Madeleine Renaud, Claude Dauphin, Michael Lonsdal.
Oui.
Bon, ensuite, elle a été reprise, mais pas tant que ça, hein, 71, 76, 2009, au Théâtre de la Madeleine. Et je crois qu'elle est programmée à l'Odéon, là,
oui,
en mars.
Oui, il y a une autre version qui est programmée à l'Odéon, qui se crée en Suisse bientôt. Voilà.
Oui, ouais. Très bien.
Donc, ça, visiblement, c'est une pièce qui est d'actualité ou qui a des nouvelles résonances, en tout cas.
Oui, c'est ce que je me suis dit. Oui.
Par rapport au patriarcat, par rapport à tout ça, quoi.
Oui, au couple. Au couple.
Au couple, tout simplement.
La communication couple. Hein.
Ouais,
donc,
voilà,
L'Amante Anglaise, on rappelle les dates, Jacques Osinski.
Oui.
Donc, c'est jusqu'au mois de décembre, c'est ça, mardi ou samedi?
31 décembre. Et puis après, il y a encore quelques dates de tournée en région parisienne. Ça joue au Théâtre Montansier de Versailles, début janvier. Je crois les 9, 10, 11. Et puis après, il y aura une grande tournée à l'automne 2025 dans plusieurs villes de France sur novembre, décembre, janvier, février 2025-2026. Voilà.
Très bien. On rappelle la distribution, Jacques Osinski.
Oui. Donc, Sandrine Bonner, Jean-Claire Lanne, Frédéric Langen, l'interrogateur, et Grégoire Osterman, Pierre Lanne, le mari.
Très bien. Et un texte lu par Denis Lavant.
Oui, le prologue est lu par Denis Lavant. Un petit clin d'œil.
Parfait. Merci beaucoup, Jacques Osinski.
Merci.
À très bientôt.
Au revoir, merci. Au revoir.
Chers auditeurs, l'émission Toute la culture que j'aime prend fin. Vous retrouverez Marie-Laure Attino, vendredi prochain à 18h. Et quant à moi, eh bien, voilà, je vous conseille donc d'aller voir L'Amante Anglaise à l'atelier, d'aller faire un petit tour du côté de la Butte Montmartre pour l'expo formidable, passionnante sur Jacques Prévert, et du côté de la Place Monge pour une exposition sur le hasard. Et moi, je vous retrouve donc vendredi dans 15 jours. Très bonne soirée.